What for?
I'm trying to think.
C'est maintenant qu'on commence.
C'est incroyable, c'est incroyable. On voit le professionnalisme ici. Nous sommes un
on y arrive tout doucement, petit à petit.
Voilà, la RTBF, tiens-toi prêt, on arrive.
On va racheter RTL.
C'est ça.
On a déjà le bouton rouge, alertez-nous.
Donc c'est le 30.
Donc on est en train d'avoir des scoops, mais qui ne sont pas des scoops parce que ce ne sont pas encore des scoops.
On peut pas tout vous dire.
Bon, en gros, on est toujours à Oui. On a plus ou moins terminé l'épisode Music Makers et on a décidé, comme on était tous là, qu'il n'était pas tard, de faire un épisode bonus.
Le soleil n'est même pas encore couché.
Donc on a toujours. Elena est toujours là.
Bonjour.
Georges est toujours debout. Quand.
va bien te faire foutre.
C'est parce qu'on est tôt. Kant est toujours vaillant. Pat est toujours là. Et on a David qui nous a quittés, mais on l'a remplacé de façon brillante.
À un moment, j'étais faire pipi et il y avait quelqu'un dans le couloir.
Et c'est qui?
C'est Pascal.
Qui est Pascal?
Bonjour.
Bonjour Pascal. Raconte-moi un peu qui est Pascal.
Qui est Pascal?
C'est toi.
Alors,
qui c'est?
Tu veux vraiment que je te raconte qui est Pascal? Alors, en
98... Je ne vais pas te dire fait court parce que tu ne m'écoutes pas, mais...
Par là ?
Oui, dans ces eaux.
Dans ces eaux-là, j'ai fait une formation en informatique et c'était mon professeur.
D'accord.
Je sais voilà. Pas si quelqu'un est au courant, ça, ici.
Non ?
Si, moi, je savais.
Tu savais ?
Oui, j'ai quelques personnes
qui savaient.
Et donc, chemin faisant, il se fait que la nature fait que j'ai également
bien
croisé
les choses, bien
la
les
route
choses.
D'Elena, parce qu'en fait, Pascal est le papa d'Elena.
Voilà.
Mais oui, il n'est pas que le papa d'Elena.
Non, il n'est pas que le papa d'Elena.
Entre autres. Et alors,
en 1992...
Oui, moi déjà que je fais des digressions.
Vas-y, Pat.
Alors, moi, je jouais dans un groupe qui s'appelait Doghouse.
Oui.
Et Pascal, il jouait dans un groupe qui s'appelait Lopsin Peng.
Yes.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait.
Exactement.
Et on faisait plein de dates ensemble, en fait. On se retrouvait
on
toujours dans les mêmes trucs.
Une magnifique tournée en Ardennes, ponctuée de matchs de foot improbable.
Un truc de fou. Et en plus, ce jour-là, avec mon groupe à moi, on avait joué d'abord à Namur, en plein air là.
Solidarité
du
rock. On avait joué là le matin, puis on avait joué à Eupen l'après-midi, et on avait été joué à Arlon le soir. Donc tu vois, mais à l'époque, on n'avait pas vraiment cette conscience écologique, tu vois.
En Mazda.
Tu n'es très pote.
Non, on allait en van quand même, parce que
en
tu vois, déjà, on allait déjà en van.
En van diesel.
Le même que dans l'agence touriste, tu vois.
Oui, je vois très bien.
Et donc voilà.
En parlant de Nobsen Pang, j'ai appris de sources sûres que tu avais remis des morceaux sur Spotify.
Oui.
Ouais. Donc moi je vais encourager les gens à aller streamer. Tu vas gagner plein de millièmes de cents.
Vraiment le fun fact absolu. Et je crois que c'est où je veux en venir. Donc lors de son mariage, Pascal, il avait invité plein de groupes en fait qui sont venus jouer tout ça machin. Et moi j'étais tellement bourré que j'ai chanté les mêmes paroles sur les deux morceaux différents.
Voilà. Bonjour.
Bravo, tu viens de te griller là.
Patrice.
Non, ils s'en sont tous rendus compte. Hein, je crois que...
Ça passait très bien.
Ouais, ça passait très bien parce qu'en fait, le beat était plus ou moins le même. Tu vois, donc,
c'est pas grave.
Pas fort différente.
Et donc, on a décidé de faire un épisode bonus. En gros, lâchement, vous étiez quatre à connaître un groupe qui s'appelle Meule. Pat et moi, on ne connaissait pas. Donc, vous avez.
Alors, Pat et toi, vous ne connaissiez pas, mais.
Pat vient de se rendre compte qu'en fait, il connaissait.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est ça.
Et moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas, mais que j'aimais bien. Et donc, tu nous as fait écouter l'album à Pat et à moi rapidement avant. Et donc, on va parler d'un album qu'on vient de découvrir, en tout cas nous deux. Donc, je propose que l'un d'entre vous qui connaît parle un peu de ce groupe. Déjà, il vient d'où ? C'est un groupe belge ou pas ?
Moi, à la base, Meule, c'est des Peugeot 103 SP, SPX, XPX Racing, etc., des Camino, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est une Meule. Et un jour, il y a, je dirais, 2 mois, un truc comme ça, je ne sais plus qui poste un live KUXP de Meule. et je fais
KXP, qui est une radio très connue américaine.
Voilà. Et je tombe sur mon cul de ma chaise.
C'est-à-dire de haut.
C'est ça. Voilà.
Pas comme moi.
C'est, en fait, c'est pour ça que tu as l'air un peu tendu. Tu n'es pas tendu, en fait, tu as juste mal.
Oui, c'est ça.
Non, il n'a plus de coccyx. Il y a plus.
Moi, je tombe de haut, Bobby roule. C'est différent. Et donc, je suis incroyablement surpris par cette prestation carrément dingue, parce que c'était vraiment carrément dingue. Je vous conseille d'ailleurs tous, non seulement d'écouter l'album duquel on va parler ici.
On mettra tous les liens dans un article,
qui,
et oui.
Qui s'appelle Meule. C'est Meule de Meule. Okay. Désolé.
Meule. Ils ont fait ça. Ils ont fait sobre.
Ouais, c'est ça, mais faisons simple, faisons simple. Et donc voilà, en parlant de simplicité.
Et donc groupe, il vient d'où?
Bah, c'est un groupe belge.
Ah ben bah, voilà, donc
pas
ils passent.
En fait, ils sont français.
Ils sont français.
Oui, bien sûr qu'ils sont français, Meule.
Oui, et moi je croyais qu'ils étaient. Bon.
Si, si je ne dis pas de bêtises, Quand ils viennent de Tours.
On t'écoute, Elena.
Ah mais.
Ouais, et donc oui non, malheureusement ils ne font pas partie de notre petit paysage musical wallon.
Et toi, comment les as-tu découverts alors?
Moi je les ai découverts. Simplement comme ça, parce que j'écoute beaucoup un groupe qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard.
Oui.
Et c'est leur plus grande inspiration. Et donc, je ne sais pas comment, via les algorithmes de Spotify, j'ai fini par tomber sur eux. Et j'ai adoré le groupe. J'en ai parlé à mon petit ami Renaud, qui travaille chez Jam, qui a fait une interview de Meule. Et donc, du coup, grâce à ça, j'ai reçu une guest pour aller les voir en concert. Et j'étais les voir en concert. Et c'était extraordinaire. Donc voilà, petite histoire...
Et donc le concert, raconte-nous le concert.
Donc le concert, déjà, je trouve que la configuration...
Quel est le principe du groupe, oui.
Ben justement, elle est vraiment, c'est vraiment génial. La configuration, c'est un truc hyper expérimental et moi, c'est un truc que j'avais jamais vu. Donc déjà, ils ont deux batteurs. Voilà, simplement, deux batteurs, ils chantent tous les deux.
Alain serait là, il nous dirait, Phil Collins l'a déjà fait. Mais enfin bref, continue.
Sauf que ça ne s'arrête pas là.
Il n'est pas là.
Ça va encore plus loin. On pourrait se dire, ok, deux batteries, il y a sûrement une basse, une guitare. Pas du tout, non. Un synthé modulaire.
Okay.
Voilà. Et encore un autre chant et une guitare connectée en Bluetooth.
Ok. Voilà.
Donc ça fait une alchimie vraiment hyper particulière, fort axée du coup forcément sur la section rythmique. Et les deux batteurs ne jouent pas spécialement la même chose. Et c'est pas non plus spécialement un qui joue le drive et l'autre qui fait des fils. En fait, ils font des polyrythmes. Et donc du coup, il y en a un qui joue par exemple en 3-4 pendant que l'autre joue en 4-4 et ils se rattrapent tous les un certain nombre de tours. Et donc ça fait des trucs complètement trippés, sauf qu'ils arrivent à faire passer des trucs complètement trippés, complètement inaperçus, parce que ça drive tellement que l'auditeur est juste « Ah ouais, d'accord, ça marche », sans se poser des questions. C'est seulement quand tu te concentres et tu te dis « Attends, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui passe sur le temps. » Et en fait, quand tu décortiques le truc, plus tu l'écoutes, plus tu te dis « Ah ouais, c'est vraiment trippé leur machin. » Voilà.
C'est pour les puristes, là, l'explication ici. Hein.
Oui, mais on a écouté, on mettra...
En gros, l'idée, c'est vraiment t'écouter avec ton corps, parce que tu vois, c'est tellement tribal comme truc que tu te dis, oui, il y a peut-être quelque chose de bizarre au niveau de la rythmique, mais ton corps, il comprend. Tu vois, et t'es pris dans le truc comme ça. Un truc aussi qui est particulier dans la config, c'est que les deux batteries en question ne sont qu'une seule batterie, c'est plutôt une batterie siamoise, ou deux batteries siamoises, plutôt comme ça, qui sont attachées par la grosse caisse.
Oui.
Donc, en fait,
ah oui, ok.
Ouais, ouais. Donc, en gros, sur le devant de la scène, c'est assez spectaculaire. Hein. Y a vraiment, tu vois, en fait, deux batteries qui sont perpendiculaires à la scène, c'est-à-dire que tu as la grosse caisse et tu as les deux batteurs de part et d'autre. Je sais bien que c'est pas très radio, évidemment, comme ça, mais
tu
les vois donc taper sur la même grosse caisse et ils ont chacun leur tom et leur caisse claire, etc. Et donc du coup c'est vrai qu'ils partent comme ça en polyrythmie, ils ne doublent jamais les rythmes, c'est toujours des rythmes complètement différents et le rythme complet est finalement interprété par les deux batteurs
et c'est hyper
visuellement
intuitif,
c'est assez impressionnant hein. Et alors tu as le gros synthé modulaire qui est juste derrière, qui vient vraiment fermer cet espace-là. Et puis tu as le guitariste bassiste qui est par-dessus et lui qui fait une espèce de...
Okay, visuellement, ça doit être... Complètement...
Oui, c'est assez
ouais,
impressionnant.
C'est ça, en fait, tu as les deux batteries qui sont devant, enfin les deux, ouais. La batterie multiple.
Oui, c'est ça.
Multichose.
Multiple.
La batterie multiple. Oui. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc, tu as la batterie multiple et derrière la batterie multiple, tu as un mec déjà avec son synthé modulaire qui est penché vers
oui,
l'avant.
Oui. Voilà, c'est
donc,
ça.
Je n'étais pas au concert, mais on me l'a raconté, je pense, 3 ou 4 fois. Et j'en demande encore. Hein, si quelqu'un veut me raconter encore le concert une fois, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Je suis très impatient de les voir, je le dis.
Voilà. On ne met pas la pression aux gens du tout.
Non, du tout. Et donc, visuellement, c'est, je suis excessivement impatient de les voir. Et juste pour ce truc de disposition scénique qui est complètement qui sort de nulle part et qui est complètement vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude et de voir justement parce que c'est un truc l'explication d'Elena est certes très technique mais il y a un truc je pense qui doit sans doute échapper au commun des mortels, c'est le fait que en fait, c'est un jeu entre les deux et ils communiquent vraiment. Donc, c'est pas juste un qui joue un rythme et l'autre. Oh, tiens, à un moment, ça tombe juste, etc. C'est qu'il y a un vrai jeu, une vraie connivence entre les deux batteurs. Et je trouve que déjà dans les albums, ça s'entend que c'est pas juste quelque chose de mécanique, mais qu'il y a un vrai fonctionnement comme ça avec entre les deux batteurs. Et cette couche électronique qui n'est pas que électronique parce qu'il joue aussi de la guitare, de la basse avec des effets, etc. Donc il y a vraiment toute une couche de nuances en fait qui est amenée supplémentaire.
Ok, Georges, tu connaissais toi ?
Alors moi j'ai un peu honte, mais moi qui aime bien lire plein de magazines et d'interviews, découvrir plein de trucs, moi j'ai découvert Meul avec un article sur le site de la RTBF.
Voilà. C'est une très bonne source.
Une très bonne source, mais c'est assez inhabituel pour moi de découvrir des trucs sur le site de la RTBF. Ça n'arrive pas ultra souvent malgré tout. Mais effectivement, ils parlent souvent bien de musique et de trucs super intéressants. Mais voilà, c'était un peu surprenant. Et moi, il décrivait ça effectivement, King Gizzard, machin, blabla, mélange avec Kraftwerk. Et donc, moi, je lis cette description, il parle de musique de trance, de batteurs déjantés qui se partagent une grosse caisse et qui se répondent l'un à l'autre. Et je suis allé écouter, enfin, je me rappelle, j'étais en bagnole, j'attendais je ne sais plus à quelle occasion, mais donc, et je lance Spotify dans la voiture, et je me dis, bah tiens, ce truc, ça a l'air rigolo, ça a l'air sympa. Et je lance dans la voiture. Alors, la voiture, c'est pas le meilleur endroit pour découvrir de la musique, on sera tous d'accord, c'est bien pour réécouter des choses qu'on connaît, moi, c'est pas mon environnement préféré, mais j'ai trouvé ça super sympa, et la première chose que je me suis dit, c'est, misère, je veux les voir en live, ces mecs-là, ça va être une tuerie, et j'attends aussi avec impatience de les découvrir et de voir à quoi ça ressemble, cette espèce de cacophonie, pas cacophonie, parce que c'est très musical et c'est très... je ne sais pas comment dire. Trans, c'est bien. Tu as l'impression que tu rentres dans un truc, en fait, et dans une espèce de boucle musicale, et tu rentres dedans de plus en plus.
On discutait tout à l'heure avec Pascal dehors, juste avant de commencer. Il y a un côté tribal.
Ouais.
Qui t'emmène un truc.
Tribal, mais sur 8 et 9, tu vois.
Mais il y a ce côté. Du coup, une trance.
Ouais.
Mais parce que c'est pas la trance genre le style techno la trance c'est justement le fait je pense que les percus restent pardon que les percus restent la base de la musique et que le côté plus instrumental vient en support au truc mais que la base c'est des percus d'où aussi la scéno à mon avis qui doit
donner, oui.
Et alors, de mémoire, je vais peut-être dire une connerie, mais je me rappelle que dans l'article, en écoutant, parce que du coup, je lance le truc dans la voiture, j'écoute, et je lis l'article, et vous allez me corriger si j'ai une bêtise, mais il me semble qu'il y a un des membres du groupe qui s'appelle Doris, et le côté poisson rouge dans la répétition, en fait, moi, ça m'a parlé directement.
Mais on vérifiera tout ça. Pat, tu ne connaissais pas, toi ? Oh, tu croyais que tu ne connaissais
pas. En fait, je croyais que je ne connaissais pas. Mais effectivement, je crois que j'ai vu la même chose que Georges sur le site de l'RTBF. Directement, là, quand j'ai vu ces deux batteries attachées là, dans la vidéo, tout ça, machin, je me suis dit, oulalalala, qu'est-ce que c'est ce truc de barré, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais non, je me souvenais juste pas du nom du groupe.
Ça arrive, écoute, ça arrive même au meilleur.
Je ne peux pas.
Tout ça.
J'ai pensé au Camino.
Exactement, voilà. Voilà.
Vous remarquerez que je me suis abstenu de toute forme de vanne sur le me foin, je me suis dit je vais pas le faire. Voilà. Et voilà.
Pas d'aiguille, pas de bottes.
Non.
Voilà. Rien. Franchement,
je me suis mis des.
C'est pas la peine, Bobby vient de faire tout.
Donc, oui, voilà. J'ai tout balancé. Et donc, tu vas réécouter cet album ? C'est
oui,
ma question.
Oui, oui. C'est la question du podcast.
Oui, oui, donc.
Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que ça fait partie de ton top 10 ?
Est-ce que tu as envie de les voir en concert ?
Oh, mais oui, j'ai très, très envie de les voir en concert, oui.
J'espère que ça se produira bientôt.
Au moins autant que Kant. Au moins autant que Kant. Peut-être un peu plus que Georges. Mais voilà. Non, si, c'est le genre de truc qui. Moi qui me fait, c'est le genre de musique en tout cas qui me fait bien triper en général.
Moi je pense qu'on va venir en bande.
Et bon, bah, c'est peut-être pas impossible que.
On verra ça.
On va venir en meute.
On va venir en meute.
En meute, oui.
À Meule,
ça fait deux références à Alain alors qu'il n'est pas là, il va être heureux. Bah oui, moi j'ai découvert ça. Voilà. J'ai écouté ça, oui, voilà, pendant la pause. Ça donne envie. Alors j'ai envie de réécouter l'album convenablement. J'ai, comme tout le monde, je pense, très envie de les voir en live, surtout après ce que vous avez expliqué visuellement. Moi, ça m'a fait penser à un album de Soul Wax, From Dewey. J'ai retrouvé, je fais pas le malin, je connaissais pas par cœur, j'ai retrouvé la référence où ils ont fait un truc dans le même style, Pascal. Oui, oui. Tu vas pas me contredire, j'espère. Oui, avec deux batteurs, donc une batteuse et Max Cavalera de Soulfly. Avec un live aussi, mais là c'était deux batteurs avec synthé, plus basse, plus guitare. Mais du coup, c'est oui, t'écoutes ça, tu te dis je vais réécouter ça convenablement, et c'est le truc que t'as vraiment envie de voir en live, clairement. Quoi.
Mais c'est avec Max ou Igor ?
C'est le batteur.
C'est Igor. Alors.
C'est Igor. Ouais.
Max et Igor. Max et Igor, j'ai l'impression de voir le nom d'un dessin animé.
Des années 80, ouais,
avec la musique de Sepultura derrière.
Voilà. Des nounours, mais ils ont du sang qui leur coule de la bouche.
Et des grandes dents.
Des grandes dents et une oreille un peu coupée.
Ils arrachent la tête des enfants.
Exactement.
Ouais. Ah bah voilà.
Et moi, si je peux revendre encore un petit peu le live de Meule, du
oui,
coup.
Oui, s'il te plaît.
Il y a plusieurs trucs. Moi, je me suis tapé Arlon pour aller les voir. J'adore Arlon, mais c'est quand même un petit peu.
C'est loin, quand même.
C'est loin, mais c'est bien, comme dirait le slogan des Arts à Lunaire. Et je pense que ça pourrait être facile de se dire ok, on a une configuration qui est marrante, on peut se baser uniquement là-dessus pour faire notre bazar. Mais en fait, pas du tout. Je trouve que ça dépasse vraiment. Et même s'il y avait un seul batteur qui faisait tout, bon, même si c'est complètement impossible, je pense que la musique, elle se suffit à elle-même et ça reste hyper, hyper musical, hyper entêtant, ne serait-ce que même sur le studio. Moi, je trouve ça hyper impressionnant au niveau mélodique, niveau évolutivité, on va dire. Et il y a un truc qu'il disait dans ce fameux article de la RTBF, c'était que pour eux, la transe, c'était comme quand tu écoutes le tic-tac d'une horloge. Tu rentres en transe à partir du moment où tu ne l'entends plus. Et en fait, dans Meule, c'est exactement ça qui se passe. À un moment donné, tu n'entends plus un des rythmes. Et à un moment donné, il ressurgit. Et il te faut tout un temps avant de comprendre. Ah ouais, en fait, ce truc, il est là depuis le début. Et en fait, je n'avais pas du tout capté que c'était ça. Donc en fait, tu as vraiment moyen de te perdre complètement dans ce bazar-là.
Tu as des vagues sonores qui montent
voilà,
et qui descendent.
Ça.
En
c'est
fait.
Ça. Et tu te rends pas compte de ce qui apparaît quand. Et en fait, à la fin, quand tu essaies de conscientiser le truc, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il y a tout ça qui s'est construit et moi je suis juste restée là comme un con à regarder et à écouter.
Oui, et tu te fais avoir de façon très agréable.
Tu sens toutes les couches comme ça de construction qui disparaissent, qui s'atténuent à un moment donné. Par exemple, avec le synthé modulaire, c'est pareil parce que c'est assez étonnant. Un synthé modulaire, il est synchronisé comme ça, c'est-à-dire qu'il a un séquençage derrière,
oui,
un séquenceur.
Ouais.
Et donc, du coup, ça part sur un truc qui est théoriquement très, très figé, mais en fait, dans une musique comme celle-là, il n'y a rien qui semble figé comme ça. Et à un moment donné, tu as les batteurs qui reculent un petit peu, puis tu entends ce truc complètement rythmique derrière. En fait, tout est très, très organisé autour de ces rythmes. Mais tu ne les découvres qu'au moment où ils commencent à reculer un peu, puis c'est très étonnant. Et alors les couches de guitare et de basse qui arrivent par-dessus te transforment ça en quelque chose de complètement rock'n'roll qui transcende vraiment tout le truc. Et t'es trippé du début à la fin. C'est vraiment assez impressionnant.
Il y a un petit côté Boss Lane aussi, puisque c'est un batteur aussi qui joue avec des synthés modulaires, mais avec une ampleur.
Ouais, Boss Lane est plus. Techno, j'ai envie de dire.
Ouais, ici.
Qu'ici, il y a un truc plus, plus tribal, plus trans, un truc qui ne s'arrête pas. le projet de Boss Lane, c'est, je trouve que c'est plus carré en fait. Mmh. Et un carré, ça commence ouais. quelque part et ça finit quelque
ici,
part.
Ici, on ne sait pas où
ici,
ça se termine.
Ça pourrait durer deux ans.
C'est très motorique, hein, donc du coup, il n'y a pas de fin dans ce genre de truc.
Ouais, c'est ça. Ça pourrait ne jamais s'arrêter. Ouais.
Est-ce que en concert, c'est un seul morceau qui dure ou il y a quand même des breaks
Il y a quand même des transitions. Mais c'est des espèces d'épisodes comme ça, je dirais. Il y a des morceaux comme sur l'album. Il y a des, par exemple, je sais bien que le premier et le deuxième, ils transitionnent de manière assez fluide, je veux dire. Et en live, c'est vraiment ça. Donc il y a comme des petits chapitres. Et pour information, ils viennent de sortir un EP. Donc ils jouent aussi des morceaux de cet EP-là. Donc forcément, voilà, il y a des petits passages comme ça qui sont entrecoupés. Il y a assez peu d'interaction avec le public. Mais je pense que dans ce genre de configuration, t'as juste pas envie de parler. T'as juste envie de plonger dans ton truc, quoi.
Et moi, j'ai une question par rapport au live, parce que quand tu écoutes ce genre de truc, mais est-ce qu'ils sont fidèles, est-ce qu'en live, ils sont fidèles à ce qu'ils font sur studio? Parce que c'est la musique où tu peux te permettre normalement de partir un peu dans le délire. Est-ce qu'ils le font ou pas, en fait, en live?
Ouais, ils le font.
Est-ce que tu penses que c'est structuré ou il y a une part d'impro quand même?
Je pense que c'est quand même relativement structuré parce que, comme je disais, c'est en fait, ça dépend des parties parce qu'il y a quand même des trucs qui sont hyper mélodiques ou il y a des trucs qui restent super en tête. Et je pense que c'est ça qui fait leur force aussi, c'est que c'est pas juste un truc motorique, c'est pas des chansons non plus, mais quand tu ressors d'un concert, t'as juste le machin qui trotte en tête toute la nuit, c'est infernal. Et donc
sortez de là,
c'est vraiment ça.
Il suffit.
Mais je pense que du coup, forcément, je pense qu'ils font davantage de tours, ils font grossir les trucs, mais il y a quand même cette structure de morceaux qui fait leur force aussi et qui fait que le machin reste quand même hyper audible par un grand public, je pense. C'est un truc quand même fort expérimental, mais qui est quand même audible par
ça groove. Il y a quand même un gros groove, et je pense que tu vas avoir du mal peut-être à amener des gens à venir les voir en concert, mais par contre, tu peux les prendre par surprise au milieu d'un festival, et ça peut être genre le coup de cœur d'un festival où personne ne les attend, quoi, tu vois.
Oh, tu mets mieux les grooves dans la même phrase.
C'est super marrant. Moi, pour de vrai, moi, je trouve ça super marrant.
J'ai même pas fait exprès. Vas-y, c'est toi le chef aujourd'hui.
Et toi, ça va?
Moi, ça va. T'as passé une bonne soirée, toi? Moi, je passe une super soirée.
Moi, j'ai une question. Pour revenir un peu sur... Allez, on est dans le bonus, mais on vient quand même d'un épisode musique. Et
on vient de loin.
On vient d'eux. On n'est pas sûr. On est sûr, ça, je déteste cette question. Mais moi, j'ai une bête question pour Elena, parce qu'ici, nous, c'est des vieux cons. Hein, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on écoute de la musique.
On peut le dire.
Mais moi, j'ai une question par rapport à toi. C'est maintenant que tu fais de la musique et que tu es dedans, quand tu vas découvrir Meul en concert, est-ce que tu appréhendes le concert, tu écoutes le truc comme un fan de base, ou est-ce qu'il y a déjà ce petit côté un peu de déformation, tu fais de la musique, t'es complètement dedans, et est-ce que tu vas quelque part analyser un peu derrière et aller chercher des trucs que moi, quand je vais aller le voir, je vais juste rentrer dans le trip et je vais pas aller me tracasser de justement 3 temps, 4 temps, je vais me dire c'est super, mais est-ce qu'il y a un truc déjà comme ça qui se fait quand t'assistes à un nouveau groupe, quand tu découvres un nouveau groupe en concert comme ça?
C'est un peu des deux, parce que là, j'étais vraiment en concert alors que j'étais déjà fan, moi j'écoutais tout le temps déjà de base, donc simplement j'étais en mode yes, je vais enfin voir ce groupe, et donc forcément j'ai bien dansé, j'ai bien pogoté avec Brieux, l'autre membre des Ozines qui était avec moi à ce concert. Mais forcément, je me dis, ça reste inspirant. Et je pense que c'est pas analysant en mode, je vais essayer de déconstruire, en mode, j'arrive à comprendre. C'est pas du tout ça. C'est, je me dis, tiens, ça marche. Qu'est-ce qui fait que ce truc marche? Et comment est-ce que je peux prendre des petits trucs pour éventuellement rajouter à mon projet? Et c'est juste enrichissant, en fait, finalement. Mais c'est sûr que la grande majorité du temps, surtout dans ce genre de musique-là, tu rentres dedans. Quoi qu'il se passe, quoi que tu connaisses en musique, je pense que simplement, c'est fort, quoi. Tu comptes pas, t'es juste dans ton truc. Et c'est sûr qu'en studio, si tu l'écoutes 4, 5, 6 fois, tu dis ah ouais, là, il y a quand même un truc bizarre qui se passe. Mais en live, je pense vraiment pas. En tout cas, pour ma part,
tu te fais avoir. Tu te fais complètement avoir. Tu oublies complètement que t'es musicienne et que tu dois essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Oui, c'est sûr, c'est pas le but. Et je pense que c'est ça qui est chouette aussi. C'est quand on va discuter avec les groupes après, c'est justement de ne pas venir leur dire ah ouais, bien vu le passage en 5-4, une chronique comme ça, c'est juste j'ai bien aimé, ça a provoqué telle émotion, et c'est ça qui était super chouette. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les concerts.
Tant mieux, Tu n'es pas déformé par ton métier ou ton demi-métier.
Il y a juste quand c'est pas bien, je pense, qu'on réagit comme ça. Tu vois ? Mais c'est pas une blague. Hein. En fait, parce que quand il y a un concert, tu vois, même des trucs que tu as écoutés sur disque, etc., que tu trouves vraiment très chouette, et puis tu vas voir en live et que ça ne fonctionne pas.
Ouais.
Là, directement, par contre, tu fais un switch et tu dis pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ?
Et t'arrives à le trouver ?
Bah, en général, c'est la section
rythmique. Oui, souvent, c'est soit de la section rythmique. Ouais, ou alors voilà quoi, un mauvais son. Tu vois, des fois, ça peut être aussi des aléas techniques, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément que les musiciens jouent mal. Mais c'est clair qu'à partir du moment où ça ne fonctionne pas, là, tu vas tout de suite te demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand ça fonctionne, tu rentres dedans, tu t'en fous.
Tu t'oublies, quoi. Ouais.
Il y a quand même toujours la question, même quand on apprécie un concert comme ça, il y a toujours la question de techniquement comment ils font, comment ils ont fait techniquement. Comment ils synchronisent le truc, enfin, moi, je me pose toujours cette question-là de comment ils font pour, avec ce synthé qui est sur une horloge qui est calibrée.
Qui est interne.
Ils sont cliqués, c'est sûr, mais comment ils arrivent à mettre ça en place techniquement ? Et moi, c'est toujours une question.
Donc, être cliqué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand les batteurs ont un clic dans l'oreille pour donner.
Un métronome, en fait. Ouais.
Et avec le risque de faire en sorte que le musicien soit un peu en dehors de sa prestation parce qu'il est concentré sur son clic. C'est toujours la grosse difficulté, notamment pour les batteurs, d'avoir ce côté un peu senti. Et ici, les deux batteurs doivent vraiment bien se regarder.
C'est pour ça qu'ils sont face à
l'autre. Ils sont en face à l'autre, ils doivent se parler par les yeux.
Ils rigolent, c'est hyper fun à regarder aussi.
C'est vrai ? C'est pas deux robots qui...
Non, du tout.
Ils s'éclatent, quoi.
Sur le site de l'RTBF, il disait, je me rappelle, c'est pour ça qu'ils se répondent. J'aime bien le côté. Ils se répondent l'un à l'autre.
Dans se répondre, on pourrait croire que c'est un puis l'autre.
Ah oui.
Alors que c'est pas vraiment ça qui se passe, tu vois, c'est vraiment. Non, c'est un dialogue qui. Enfin, c'est pas un dialogue,
c'est un dialogue constant, en fait.
C'est plutôt un message qui passe. Ils construisent quelque chose ensemble, tu vois.
Un échange permanent.
Ouais, c'est un échange permanent. C'est vraiment très étonnant. Ouais.
Eh bien,
on se réjouit de les voir. Un jour, peut-être.
Un jour, peut-être. On va se tenir au courant des dates
dans
la région.
On va essayer de se tenir au courant.
Et on en parlera.
J'en profite pour faire un petit parallélisme qui sera sans doute bienvenu avec l'atelier rock.
De quoi ?
Est-ce qu'il se passe des choses ici à un moment ?
Alors Pat, on est donc le 30 mai, on va partir sur une base qui va sortir dans une semaine, 15 jours grand maximum.
Le prochain événement ici, enfin ce ne sera pas vraiment ici, c'est en extérieur, donc c'est la fête de la musique le 23 juin.
Ouais.
Sera en face du centre culturel.
Il y aura quoi ?
Il y aura Dan San, il y aura Artie Leizo, il y aura Curiosity Place de Cure et nos élèves qui jouent aussi. Voilà.
Cool.
Donc on a fait un truc vraiment très grand public parce que à la base on devait avoir Robin Millions qui venait. Mais bon, apparemment, Lucien a eu un petit problème familial.
Ils ont volé les millions.
Et donc, du coup, bah, ils ont décliné. Donc, on a un peu cherché une solution. Et Artie Leizo, c'est un mec qui fait de la musique urbaine, mais assez familial, quoi. Il n'est pas question de gros mots, machin.
Ah, là, va adorer.
Et c'est plutôt comique, quoi. Et ça met une super ambiance, donc voilà. Et puis, Dan San, parce que le dernier album, je trouve qu'il est juste... J'ai pas entendu, dans ce style-là, en tout cas, j'ai rien entendu de mieux depuis longtemps. Quoi. Donc, d'ailleurs, quand le premier single est sorti, Hard Day's Are Gone, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a John Lennon qui
vient de
on vient de ressortir un single.
Il est revenu.
Les scarabées.
Je trouvais que c'était aussi propre. Okay. Alors que la voix est relativement différente. Mais dans la démarche, je trouvais que c'était juste incroyable. Quoi. Et donc, je me suis vraiment jeté dessus quand leur manager, enfin leur booker qui est en même temps leur bassiste m'a proposé, j'ai dit ouais vas-y.
Et donc ça 23 juin,
c'est le 23 juin entre 16h et 2h du matin,
c'est gratuit,
c'est la fête de la musique et c'est dans le parc en rayon.
Ok, ouais.
venez
me payer des bières,
ouais
voilà.
On fera ça. Elena, ton actualité cette année?
Alors, ben moi, je vais contrarier Pat parce que j'ai aussi un concert le 23 juin. Et c'est au Fête de la Musique aussi. Et c'est à Saint-Gilles. C'est gratuit aussi. Mais je pense qu'on joue aussi avec Dan San. Une autre date, c'est le 25 à Isel, au Fête de la Musique aussi. Donc, si vous voulez venir nous payer des bières aussi, c'est avec grand plaisir. Et on pourra vous en payer aussi, évidemment. Sinon, on joue le 10 juin. Est-ce que le podcast sera déjà sorti le 10 juin ?
On va essayer qu'il soit sorti, oui.
On joue à Silly.
Ok.
Voilà. Sinon, le 22 juin, on joue à Gand, au bar Bricolage. C'est un superbe endroit où il y a de la très bonne cuisine. Je pense qu'il y a du vegan, c'est local. Et c'est hyper chouette. Sinon, bah, il y a Dour aussi. Voilà, Dour. 14 juillet. Et le 15 juillet.
On a voulu
juillet
tout dire
aussi.
Et aussi un agenda juste de taper.
Oui, c'est ça.
Je t'en prie, vas-y, continue.
Oui, et le 15 juillet à Dour aussi, avec un autre groupe dans lequel j'ai la chance de jouer qui s'appelle Letoum. Je ne sais pas si vous connaissez, un groupe de doom metal sludge. Voilà, c'est,
okay,
c'est très
lourd. J'en connais un qui va adorer.
Eric Harvey.
Exactement, exactement.
Ok, il connaît.
Et c'est vraiment très chouette. Et voilà, donc ils joueront à Dour et je ferai du clavier avec eux.
Donc ça c'est pour le live.
La fameuse voix là, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure pour Laurent Danse, enfin, ouais, Laurent Doom. Ouais, c'est, là, ça, on la retrouve plus.
Il y a peut-être moyen de retrouver.
On la retrouve dans ce projet-là.
Trucs,
ouais.
Et tu vas t'enfermer dans un studio ou pas cette année ?
J'aimerais beaucoup, oui. Donc là, ici avec Yosine, on vient de sortir un nouvel EP. Donc on l'a sorti il y a un mois, quasi exactement. Et on joue déjà pas mal de morceaux, de nouveaux morceaux en live, et on aimerait bien enregistrer un album en 2024.
Est-ce que t'as pas parlé d'un projet solo tout à l'heure ?
Alors si, j'ai aussi un projet solo qui s'appelle Tokyo Witch et qui va sortir un single tout bientôt, j'espère ces vacances-ci, enfin ces grandes vacances, et un album qui serait prévu fin d'année peut-être pour décembre.
Tu sais nous le pitcher, ce sera du
alors,
est-ce que, alors je sais que
alors
tu vas me dire non,
doom,
mais
est-ce que
ce sera du Eosine 2.0
pas vraiment, bah forcément, bah, ça peut ressembler
ça
un petit peu vu que, mais c'est en fait Tokyo Witch au départ, donc c'est un projet ambient, donc ambient plutôt folk, donc il y a quand même des guitares. Et le truc, c'est que c'est tous les morceaux qui au départ étaient trop longs, trop lents, trop perso. Et trop alambiqué pour Eosine qui se retrouvait là-dedans. Et donc voilà, ça a fait un album qui finalement je trouvais assez cohérent.
Eh ben c'est cool.
Et ça sortira cette année.
L'album va s'appeler Too Much parce que c'était trop.
Eh ben génial. Georges, t'as une actu?
Non, rien. Mais par contre, parce que Pascal, est-ce que tu ne relançais pas quelque chose ? Est-ce que tu n'as pas une actu aussi, en
si,
fait ?
Si, mais oulala, ça c'est.
Ouais,
c'est,
mais
c'est en construction.
J'étais en train de tendre l'argent pour faire un croche-pied.
C'est en construction. Bon. Y a
est-ce qu'on peut déjà en parler un peu ?
Il y a trois morceaux qui.
Alors, parle-en dans le micro, alors.
Il y a trois morceaux, pardon, qui sont en train d'être mixés, enfin qui ont été mixés déjà il y a l'an dernier, je pense, sur un nouveau projet qui s'appelle Tripping Out. Qui est un projet qui est personnel au départ, mais qui, je pense, va devenir de plus en plus familial. Puisqu'il va falloir que je le mette en place pour un live en 2024. Je croise les doigts, ce serait vraiment formidable. Et l'idée, ce serait effectivement de demander à Elena, mais qui m'a déjà dit qu'elle était partante, et à sa sœur Naomi, qui viendrait jouer la basse, et à Pascal, mon épouse, qui était la chanteuse de mon groupe.
Ah, c'est un vrai projet familial, quoi.
Oui, donc ce serait un vrai projet familial. Donc là, pour le moment, il y a trois morceaux qui ont été mixés, mais il y a plus de morceaux qui existent. Mais là, l'idée serait de compiler directement 9 morceaux, quelque chose comme ça, et d'essayer de sortir ça l'an prochain, en 2024. Ce serait ça l'idée.
Eh ben, ce serait voilà. Cool. Bon,
mais quelle famille.
Il faut savoir que Elena et Naomi sont élèves à l'Atelier Rock.
Oui.
D'accord. Donc c'est aussi grâce à toi qu'elles ont...
Non, ça n'a rien à voir avec moi, mais c'est juste pour dire qu'il y a des liens dans tout. Quoi. Voilà, c'est un peu le truc de consanguinité dont on parlait tout à l'heure.
Consanguinité, mais stimulante et créative. Quoi.
Et tu remarqueras qu'on a parlé d'Arlon, je n'ai pas parlé de consanguinité, je me suis abstenu.
Ça fait deux fois que tu te retiens. Faut vraiment qu'on fasse un épisode où tu te lâches. Mais merci en tout cas, Georges. Eh ben, c'était super. Donc, c'était l'épisode bonus de l'épisode Music Maker.
Oui,
on va les sortir.
L'épisode bonus de l'édition spéciale Music Maker.
Et peut-être qu'un jour on vous parlera d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on avait
envie de parler de musique aujourd'hui. Ouais, on réinvitera Pascal alors, si on doit. Visiblement, c'est la personne qui est intéressée et intéressante par rapport à ça. Ben, merci à tous. C'était donc c'était le The Deadbeat Club.
Merci encore à
Pat pour son accueil.
Pour son accueil.
Avec grand plaisir.
Pour l'espace qui est magnifique. On a eu un coucher de soleil
magnifique,
absolument dingue. À un moment, j'ai un peu le soleil dans la gueule, c'était pas super confortable, mais du reste, c'est juste pas magnifique.
Si t'avais mis ta casquette Deadbeat Club,
si j'avais mis ma casquette de Deadbeat Club, on en serait pas.
Je voudrais que vous fassiez des lunettes de soleil. Deadbeat
on va faire,
on va faire tout, des porte-clés,
des slips,
des montres comme RTL,
ouais,
la montre, une valise. Non,
vous revenez quand vous voulez. Hein.
Enfin, voilà, merci en tout cas de nous avoir écoutés. On est sur les réseaux sociaux, on est sur toutes les plateformes de podcast.
On est partout.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Maintenant sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires et donner votre avis sur les épisodes. N'hésitez pas. Faites-nous rire et insultez-nous.
Des commentaires positifs.
Est-ce qu'on ne s'écouterait pas un dernier petit morceau pour se quitter ?
Un morceau de Meule alors.
Un petit morceau de Meule ? Ou un morceau ? On met celui qu'on a loupé de mettre en intro.
Par exemple.
Je ne sais pas comment t'appelles, mais Diwa. Je sais pas comment on prononce.
Diwa.
Allez, on se termine sur Meule.
On met la 2.
Allez, on met la 2.
C'est toujours bien la 2.
La 2, c'est toujours bien, ouais.
Cher auditeur, dans le but évident de respecter les droits d'auteur, nous avons décidé de retirer la musique de nos épisodes. Nous en sommes fort désolés.
Bah, désolé, sauf pour les albums d'Alain, de Whitney, de moi, certains de toi et tous de Georges.
Ok.
Get a job!
What for?
I'm trying to think.